Le mag sport avec Loïc.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue sur l'antenne de Radio Albigès pour votre mag sport du 5 septembre 2017. Aujourd'hui, au menu, vous retrouverez bien sûr le motocross de Castelnau qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit de Puech-Rampant, mais aussi du foot avec la première journée de D1 féminine qui s'est passée pas comme l'auraient souhaité les filles de la SPDT. Ensuite, l'interview de Sakina Karchaoui, joueuse de l'équipe de France de foot, mais aussi du rugby avec le premier match du top 14 au stade Pierre Fabre. Mais pour commencer, allons faire un petit tour, comme traditionnellement dans cette émission, dans le petit monde du Sporting Club Albigeois. Will, jingle! Et oui, dans le petit monde du Sporting, sur le terrain, l'horizon s'éclaircit pour les jaunes et noirs. En effet, après un premier match prépa à domicile poussif face à Saint-Jean d'Angély-Cognac, les Albigeois recevaient Lavoir pour leur dernier galop d'essai avant leur grand début en Fédéral 1 Elite, ce vendredi, à Chambéry. Et les Albigeois ont régalé leurs supporters pour ce match qui, sur le pré, était loin d'être amical en corrigeant les Voréens 39-3. Même si Elbi, tel un diesel, démarra doucement durant le premier quart d'heure et laissa Lavoir enquiller une pénalité à Nicolas Gabriel dès la seconde minute, les Albigeois sur être patient pour faire sauter le verrou voré. Alors que l'absence de Mathieu André, capitaine de touche, et de Romain Casals, le talon, se faisait sentir, les Albigeois profitèrent de leur premier lancer propre sur une pénale touche pour marquer par Vincent Calas, qui faisait son grand retour à la grande joie du public albigeois. Alors que dès la 26e, le capitaine de l'ASV, Potente, se les faisait expulser temporairement pour une faute anti-jeu, les Albigeois, sur une nouvelle pénale touche, concrétisèrent leur domination grâce à un essai de Tavalea, excellent durant tout le temps qu'il passa sur le terrain, et portait la marque à 10-3. Pour ce match, les cadres du Sporting ont répondu largement présents, démontrant qu'ils seraient bien la pierre angulaire de cette saison 2017-2018. Pour preuve, Bastien de Dieu, le bûcheron albigeois, était dans un grand soir vendredi, allant au mastic et mettant de l'intensité dans son engagement, tout comme Romain Barthélémy, qui fut le métronome des lignes arrières, combinant et orientant le jeu à la perfection. Seul ombre au tableau, la réussite au pied du capitaine albigeois qui aurait réalisé le match parfait sans ce petit bémol, mais il était loin d'être le seul car les albigeois n'eurent que 28% de réussite au pied, quels que soient les tireurs. Un secteur où les staffs albigeois va s'atteler à régler la mire durant cette semaine pour que vendredi à Chambéry, les albigeois puissent capitaliser plus de points au pied. Mais durant ce premier acte, où malheureusement les joueurs vorés ne se sont fait remarquer que par une agressivité un tantinet intempestive, les albigeois ne s'arrêtèrent pas là, car Nabarro, toujours aussi en jambes, alla aplatir un coin après un petit coup de pied magistral par-dessus la défense adverse d'un Barté très inspiré vendredi soir. Et s'est transformé à la 39e par Mathieu Peluchon, tout juste rentré après que Thomas Lassel, légèrement blessé, dut quitter le terrain et qui, au gré des matchs quand même, montre de très belle chose. Malgré les tribunes du stadium qui sonnaient un brin creux, sûrement dû au fait que tous les supporters n'ont pas encore digéré les turpitudes de la saison passée, le public du stadium était ravi de ce premier acte qui se termine sur le score de 17-3. À la reprise, les joueurs du Sporting et leur ailier de feu, en la personne de l'ex-Montois Nabarro, enfonçaient le clou en inscrivant un nouvel essai dès la 41e minute pour porter le score à 22-3. Malgré un carton jaune de l'ex-voré Gaëtan Bertrand, qui a dû passer une soirée assez forte émotionnellement face à ses ex-coéquipiers, ce carton jaune est dû à une faute tactique pleine de roublardise. Les Albigeois, eux, continuaient leur indéniable marche en avant. Alors que Lavoir continue à jouer plus un derby qu'un match de rugby, cherchant souvent à pourrir le match plus qu'à envoyer du jeu, les Albigeois firent tourner et rentrer leur jeunesse triomphante. Martin Doan, titulaire et auteur d'un match de très bonne facture du haut de ses à peine 20 ans, est le parfait exemple de cette jeunesse très culottée. Il inscrit un essai plein de culot à la 60e minute, tout comme Louis Decroux, et Louis m'en excusera, très solide sur son aile, et lui aussi auteur d'un essai mérité. Seul bémol pour Martin Douan, un raffut monumental asséné par un des gros du pack vauréen qui l'envoya les quatre fers en l'air, mais au vu de la détermination et de l'intelligence de jeu du garçon, je ne pense pas qu'on l'y reprenne à deux fois. Pour conclure sur ce match qui fut quasi de gala, avec quelquefois un brin de roi rugby et des offloads assez osés, et quelques détails à régler encore, c'est le jeune Vergnaud, entré en fin de match, qui allait de son essai, transformé par Bergin Caminati, pour sceller la marque 39-3, score mérité au vu de la physionomie du match. Côté vauréen, l'ex-albigeois Baptiste Ecker, très en vue, fut un des seuls à surnager dans ce naufrage collectif, montrant une détermination sans faille, et comme l'attestent ces quelques coups d'épaule balancés en loose dé, dirons-nous, sur Barthé et quelques autres cadres albigeois. Même s'il a beaucoup d'amis au club, il n'était pas là pour faire des risettes. Au SCA, de nombreuses recrues sont montrées à leur avantage, comme le basque Usaraga, Vassunibu, Nabarro, bien sûr auteur de deux essais, mais surtout William Whitton, qui, à l'inverse du match précédent, a totalement crevé l'écran lors de son entrée par de rageuses et fulgurantes percées, brisant les lignes adverses comme si c'était du carton-pâte. Un match plein d'enseignements pour les albigeois qui, loin d'avoir rendu une copie parfaite, peuvent capitaliser sur quelques certitudes non négligeables. On écoute l'analyse d'Arnaud Mella au sortir du match à notre micro et celui de la presse locale.
Ouais, non, il y a du positif. Le positif, c'est l'état d'esprit. C'est, voilà, ils avaient à cœur aussi de montrer notre visage que celui du week-end dernier, donc ça me plaît. Après, voilà, on a encore passé du temps dans les rucks à sortir des ballons propres. Bon, en face, c'était mis à plusieurs, donc ils y avaient mis du cœur, donc c'était pas simple non plus. Et ça s'est amélioré. Après, voilà, un peu de gestion par moment aussi. Quand on est dans le rouge, on a besoin un peu de temps en temps de faire souffler nos gros. Donc bon, après, c'était un peu mon but, moi aussi. Je leur avais demandé de un peu tout jouer pour se mettre une bonne séance avant d'attaquer. Donc, voilà. Après, il y a encore beaucoup de travail. Voilà, pas gagné grand chose encore. Hein. Donc, satisfait, mais voilà, maintenant, récup. Et...
Il y a eu paradoxalement la touche a donné des signes d'inquiétude. Vous avez perdu 400 ballons en première mi-temps.
Ouais.
Vous marquez deux essais sur des touches. Alors, au final, on ne sait plus trop.
Après, en touche, on a eu. On a perdu notre capitaine de touche. Sa première mi-temps, on avait Ruslan qui a annoncé. Et je suis très content parce que je pense que c'est la première fois en match qu'il annonce. Donc, c'est un joueur qui le travaille, mais qui ne le faisait pas encore chez maintenant. Donc, c'est quand même pas trop mal. On a eu plutôt une ou deux imprécisions au niveau des lancers. C'est plus un peu de précipitation. Et après, en seconde mi-temps, on avait beaucoup de joueurs un peu moins à l'aise en touche ou un peu moins aérien. Donc, on a tricoté un peu comme on a pu, mais on s'en est bien sorti. Je suis un peu déçu sur la touche défensive parce que c'est des choses assez simples qu'on met en place. Et quand on a été dans le dur et dans le rouge, on n'a pas su retrouver un peu les solutions. Mais bon, ça fait qu'un mois et demi et ça va rentrer petit à petit.
Quand des approximations quand même sur la transmission, notamment on a vu quelques ballons tomber, moins en seconde mi-temps, pas mal en première mi-temps. C'est quoi? C'est de l'enthousiasme qui explique qu'on veut beaucoup jouer, trop jouer peut-être?
Ouais, on leur demande beaucoup de choses. En un mois, ils ont pris pas mal de charges de travail, beaucoup de mouvements, de lancements, de choses. Et aujourd'hui, voilà, il y a des moments où il faut prendre un peu plus de temps. Martin, à la mêlée, est très jeune et dynamique. Et de temps en temps, de ralentir un ballon, de laisser réorganiser et reprendre un souffle au gros, ça fait pas de mal. On a envoyé, et par moments, mais quand on est trop dans le rouge, il n'y a plus trop de précision. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Et donc, il y a ça un peu à gérer aussi et à améliorer, mais c'est positif. Et puis, c'était ce qu'on demandait, on voulait jouer. Donc, au moins, ça s'est fait. Maintenant, voilà.
Par rapport à vendredi dernier, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup plus d'agressivité, d'intensité dans le jeu même de Lyon, et surtout que vos cadres ont répondu présent.
Oui, bien sûr, mais je leur avais demandé. Mais vous y tenez à ces cadres. Hein. Oui. Non, mais je leur avais demandé d'être un peu plus agressif dans les zones de ruck. Après, c'est ce qui va se retrouver tous les week-ends. Ils vont envoyer 4-5 mecs à contester en permanence. Donc, si on ne se fait pas violence dans cette zone-là, on ne pourra pas faire du jeu derrière. Parce que quand tu mets 7-8 secondes pour sortir un ballon, mais la défense se réorganise. Donc voilà, je leur avais demandé de faire un effort là-dessus. C'est mieux, mais on est loin de la perfection. Et on n'y sera peut-être pas encore d'un moment. Quoi, mais bon, on s'entraîne pour ça.
Plusieurs reprises, ça transperce. Par contre, le porteur s'est retrouvé isolé. Là aussi, c'est des points sur lesquels vous l'incitez avec le joueur.
Ouais, on les met en situation assez souvent, mais je suis un peu déçu à ce niveau-là parce qu'on a briqué 6-7 fois et où nos soutiens ils n'ont pas convergé alors qu'on les pousse à le faire. Donc il faut trier. Il y a des zones où c'est que ça ne peut pas briquer, mais il y a des endroits où c'est qu'on a des chances que ça brique et là il faut anticiper. C'est juste un peu dans la tête aussi, anticiper les coups. Mais comme je vous dis, quand on est trop dans le rouge, il y a moins de lucidité, moins de réflexion, ça va moins vite en haut Et des fois, voilà, il manque la seconde, et puis quand c'est trop tard, le wagon est passé, et on n'y va pas. Donc il faut qu'on améliore ça. Et puis aussi, l'attitude sur les joueurs qui ont breaké, des fois, de peut-être ralentir un peu, attendre un petit soutien, des fois, ça ne fait pas de mal aussi. On a poussé les actions au bout. Mais c'est ce qu'on travaille aussi en entraînement, de breaker, d'aller essayer de les finir. Donc bon, mais c'est le troisième match. Ça va aller en s'améliorant.
Une équipe à peu près pour Chambéry, ou c'est encore
Bon, bah après, oui, bien sûr.
L'équipe de départ, elle se rapproche assez de celle que vous pourrez voir la semaine prochaine.
Ouais, à l'exception de trois joueurs, oui. Je pense qu'à Chambéry, on va envoyer quand même un peu d'expérience. Ouais. Ça va être un match un peu, je pense, assez hostile. Et pour un premier match, ils vont être énervés. Donc, je vais quand même préserver plutôt mes jeunes sur un match comme ça. On verra. Et après, ils ont fait des très bons matchs aussi. Donc, de toute manière, je pourrais quand même jouer. Comme toujours, ceux qui ont le plus d'envie et ceux qui sont les meilleurs, donc on fera le point après la vidéo.
On a vu notamment un bel état d'esprit des jaunes et noirs, surtout quand on voit la dernière action où vos joueurs se battent corps et âme pour ne pas prendre cet essai, pour rendre une copie correcte. C'est un signe quand même assez encourageant avant de commencer ce championnat.
Mais ouais, je suis très content sur la défense parce qu'on a réussi à tenir des séquences assez longues et on s'est réorganisé, on est remonté les chercher et on ne l'avait pas fait contre Saint-Jean d'Angély et on s'était fait ouvrir 2-3 fois. Donc je suis content du boulot des mecs. Mais il faut continuer dans ce voie-là parce que la défense, c'est très important. Et quand on arrive à tenir 7-8 temps de jeu et en gagnant les centimètres, et bien souvent on est récompensé. Donc nos joueurs contesteurs au sol ont fait un gros boulot aujourd'hui et voilà, je suis content de ça aussi.
Et niveau pépin physique, il n'y a pas de nouveaux joueurs qui sont rentrés à l'infirmerie? Vous pouvez rassurer nos auditeurs?
Non, on n'a que des bobos. Et on a Thomas Lasselle qui a un petit coup à une épaule. Pat, tout et tout, il a une petite côte qui a sauté, mais vraiment, c'est vraiment des conneries.
Il avait peur, mais finalement, il a fini.
Il s'est fait marcher dessus sur la rotule, donc c'est douloureux, ouais. Mais ça passe vite.
Non, c'est plus ça. Voilà.
Donc, tu fais un prix pour le match de Chambéry pour attaquer avec une équipe qui sera quasiment l'équipe type.
Oui, de toute manière, à Chambéry, on y sera avec notre équipe considérée la meilleure pour le jour J et pour ce jour-là. Mais après, il faudra se remettre en question tous les jours. Comme cette semaine, dès lundi, il faut se remettre au boulot. Et ça sera le cas tous les lundis après les matchs. Donc les cartes seront redistribuées. On a beaucoup de monde au Portillon qui a envie de jouer et qui nous montre de belles choses. Donc voilà, ce week-end, je vais me gratter un peu la tête. Et fait une semaine aussi, mais c'est bien quand il y a des choix. Et...
C'est un choix de riche, comme on dit.
Ouais, pour le moment, pour que ça dure.
Et le petit Martin Doan, qui a fait deux matchs assez exceptionnels. Vous parlez de joueurs qui tapent au Portillon, il en fait partie, j'imagine.
Ouais, bien sûr, Martin, il est comme Louis, comme tous nos jeunes aujourd'hui. Ils bossent, ils évoluent très vite parce qu'ils s'entraînent avec les anciens. Et donc, ils ont gagné beaucoup d'expérience en un mois et demi. Et là, aujourd'hui, il fait de très bons matchs, il est collé au ballon. Mais beaucoup de vitesse, il a rectifié un peu ses petites scories sur des passes et des choses comme ça qui l'avaient un peu gêné un peu le week-end dernier. Donc je suis très content du match qu'il a effectué.
Merci Arnaud.
Très bien, merci.
Maintenant, place à Chambéry et à ce champion de Fédéral 1 élite qui sera loin d'être une sinecure, tant le niveau est homogène et compact. Et où le SCA va devoir aller au mastic chaque week-end face à des équipes qui seront probablement très accrocheuses. Fort de certaines belles choses entrevues au gré de la préparation et des matchs qui en ont découlé, les Albigeois avancent dans leur bataille, mais il faudra impérativement gommer quelques lacunes pour aller chercher cette remontée que tout le peuple jaune et noir espère ardemment. Côté supporters, malgré des abonnements en berne et une partie du public qui ne donne pas encore quitus à la nouvelle direction, l'ambiance et la dynamique commencent à reprendre le bout de son nez. Sûrement galvanisés et rassurés par cette victoire probante, les supporters se sont massés dans la bodega des joueurs au sorti du match pour partager en toute convivialité bière et sandwich avec les joueurs, tout heureux de sentir un léger engouement populaire renaître. Bravo au comité d'animation des supporters du SCA pour le travail accompli et qui permet de recréer un brin de lien entre les parties prenantes de ce club. Autre bonne nouvelle, Francine, la régisseuse en chef des abeilles, les pompons girls du SCA, nous a annoncé le retour prochain de ces dernières au stadium pour enflammer la tribune jaunir, pour l'instant désespérément vide, et encourager les joueurs lors des matchs à domicile. Mais malgré toutes ces bonnes nouvelles, quelques nuages planent toujours sur la CA. Du côté obscur, c'est-à-dire dans les coulisses. Will, jingle.
Obscur, la force est noire, noire comme le château, où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée, viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, noire comme le château, où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée, viens, bascule de notre côté. Obscur,
fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Non, on peut faire à la vraie nature de la force.
Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure?
En effet, chers auditeurs, alors que la semaine dernière nous annoncions que l'état-major jaune et noir se faisait un peu de soucis concernant la chose pécuniaire, du fait de la baisse drastique des abonnements et de l'évaporation de certains partenaires non négligeables, un autre sujet préoccupe jusqu'aux hautes sphères du FCA. Après avoir failli perdre près de 150 000 euros d'indemnité de formation de la Ligue pour des retards administratifs, mais que la Ligue a rétribué en appel au Sporting, voilà que le FCA joue avec le feu concernant la convention qui le lie avec l'association du club. Car, comme vous le savez sûrement, le numéro d'affiliation et le nom du Sporting Club Albigeois appartiennent à l'association, et la SASP du FCA, régissant l'équipe pro, se doit de signer une convention avec elle, avec celle-ci, pour pouvoir commencer son championnat et aligner l'équipe à Chambéry vendredi. Cette convention qui a 3 jours de championnat n'étaient pas encore signés hier, pose un grand souci tant les tractations entre Gérard Mariou, président de l'association, et les dirigeants de la CSP sont plus que tendues. Conscient du péril qui les guette, le Sporting et la mairie d'Albi, sous la férule de Madame le maire en personne et Michel Franck, son adjoint au sport, ont décidé de convoquer une réunion en urgence avec les principaux concernés, président d'Asso, président de la CSP et DG de la CSP, pour inciter très vivement les parties prenantes à trouver un accord et signer cette convention indispensable à la pérennité du club. Espérons que la ville d'Albi, qui tente une nouvelle fois de sauver le soldat SCA et de se placer en juge de paix, puisse dénouer cet imbroglio avant que le club albigeois ne redéfraie la chronique sport et tragicomédie. Allez, faisons confiance aux acteurs de cet épineux problème, qui pourrait être réglé bien plus tôt si certains dégâts avaient été mis à la poche. Et surtout, espérons que la sagesse et l'intérêt supérieur du club prévalent sur tout le reste. Maintenant, changeons de registre et passons au foot. Will, jingle foot. Chers auditeurs, ce week-end se déroulait au stade Maurice Rigaud la première journée de D1 féminine opposant les filles de la SPTT face au mastodonte Montpellier-Rennes, vice-champion de France, et son armada d'internationales. Et malheureusement, le combat entre David et Goliath a tourné en la faveur de Goliath, tant la supériorité technique des visiteuses était prépondérante. Malgré un premier acte où elles étaient loin de ridicules, ne perdant que 2-0 à la pause, les filles du président Espier ont complètement explosé dans le dernier quart d'heure, finissant le match sur un sévère 7-0. Bien sûr, c'était la soupe à la grimace après le match côté albigeois. On écoute tout d'abord la réaction d'un des deux coachs SPT, l'ex-bordelais Théodore Genoux. Théodore Genoux, bonjour. Pour un début de saison, c'est un peu dur, on va dire. Vous avez tenu jusqu'à la mi-temps 2-0, un score qui était assez honorable face à une grosse écurie, cette division 1 féminine. En seconde mi-temps, vous avez, on va dire, un brin craqué. Comment analysez-vous à chaud ce résultat?
On était pris un peu sur leur point fort qu'on avait prévu, c'est-à-dire les côtés. Ils marquent pratiquement tous leurs buts en passant par les côtés. On n'a pas su fermer les couloirs. Sur les deux premiers, ça passe par deux côtés parce que c'est un centre et après un ballon venant d'un côté. Après, ce que je regrette, c'est qu'on peut, je pense, tenir le match à 4-0 et qu'on fait un dernier quart d'heure où on lâche un petit peu, on craque un petit peu mentalement et psychologiquement et on encaisse les 3 buts. C'est le 7-0 qui fait mal psychologiquement. Bon, prendre 4 contre Montpellier à domicile, je dirais pas que c'est normal, mais bon, c'était, on va dire, le tarif qu'on met à beaucoup d'équipes, mais en prendre 7, c'est très très lourd et pour la confiance, ça fait mal. On est tous des gagneurs et ça a assez humiliant d'en prendre 7, surtout 3 dans les quarts d'heure.
Votre objectif pour cette saison est bien sûr le maintien. Oui. Pour le prochain match, vous allez changer quelques joueuses ou changer votre système?
D'abord, on va essayer de. Là, on n'a pas lucide pour parler de tout ça. On va analyser le match parce que les matchs sont filmés. On va le regarder demain
à froid
et on verra ce qui n'a pas été. On changera peut-être des joueurs, peut-être de système ou pas. On verra les erreurs qu'on a fait. On va essayer de rectifier. Sachant que la semaine prochaine sera un tout autre match contre un adversaire de notre catégorie. Donc ça va être un match à 6 points, comme on dit. Il va falloir vite relever la tête et se mettre dans une autre dimension dès mardi à l'entraînement.
Et malgré cette lourde défaite, quel point positif retirez-vous de ce match?
Le point positif, c'est qu'on s'est procuré comme des situations. Une en première à 2-0 et on s'en procure deux en seconde. Donc on aurait pu en marquer 3. Après, quand on perd 7-0, c'est compliqué de donner beaucoup de points. Ce serait un petit peu vous mentir. Je pense que je peux donner que celui-là. On est très dessus, vous comprenez.
On l'entend bien. Merci beaucoup. Ensuite, malgré sa grosse déception qui pouvait se lire dans ses yeux, Patrice Garrigue s'est gentiment attelé à l'analyse d'après-match. Patrice Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Comme je disais à votre co-entraîneur, 7-0 d'entrée, ça, c'est dur, ça fait mal pour un début de saison, ça, on va dire, casse un peu les jambes d'entrée.
Oui, on savait que ce serait difficile contre Montpellier, mais c'est vrai qu'en début de match, voilà, on ne pensait pas prendre 7 buts. Après, bon, j'étais quand même à féliciter cette belle équipe qui est un ton au-dessus de nous. Pour autant, je trouve que le score est lourd. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup la possession, mais pour autant, première mi-temps, on sort qu'à 2-0 à la mi-temps. Et avec la possibilité de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps. Donc, c'est dur, surtout à Rigaud, surtout chez nous. Bon. Voilà, après je pense qu'on va regarder à la vidéo un peu ce qui s'est passé, où on a pêché, quelles étaient nos lacunes, et on va continuer à travailler. Le championnat va être très dur, on le sait. Bon, par contre, c'est vrai que démarrer comme ça, c'est pas très bon, surtout avec le déplacement qui nous attend à Bordeaux la semaine prochaine.
Et qui est primordial.
Et qui va déjà être, je dirais, important, parce qu'il ne faudrait pas démarrer avec zéro point au compteur après deux matchs.
Surtout que Bordeaux risque d'être une équipe qui va jouer le maintien avec vous.
Qui va jouer le maintien, je ne sais pas, parce que c'est une équipe quand même qui s'est bien renforcée cet été, qui à mon avis jouera plus le haut de tableau que le bas de tableau. Donc on sait qu'on a un déplacement difficile qui nous attend, donc on va travailler cette semaine, surtout bien analyser, ressourcer les filles aussi, parce que je pense qu'elles ont pris
un coup de bambou derrière la tête, j'imagine.
Oui, c'est le score, parce qu'après elles ont montré quand même, je trouve, des valeurs de combativité, de bonnes choses. Après, je ne vais pas dire qu'on a montré de bonnes choses défensivement, oui, quand à la sortie à 0-7, mais bon, il y a eu quelques valeurs.
Il y avait de l'envie.
Ouais, ça faudra le retenir, faudra le conserver, faudra l'accentuer.
Capitaliser dessus, comme on dit.
Après, voilà, ouais, et essayer de retirer les points forts de ce match, si tant est qu'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu quelques-uns, donc les renforcer et continuer à travailler. Je pense que c'est qu'avec ça qu'on avancera, qu'on y arrivera. Mais c'est vrai que démarrer avec une aussi lourde défaite, c'est...
Il va falloir faire la thérapie de groupe, comme on dit.
Ouais, on va discuter, on va analyser ensemble tout ça et avancer.
Après, bon, Montpellier est quand même un cador, donc ça atténue la défaite quand même.
C'est ce que j'ai dit aux filles. Là, on voit la différence entre le très haut niveau et le haut niveau. Là, c'est un groupe qui va jouer la Ligue des Champions. C'est un groupe qui, lors des matchs de préparation, n'a pas perdu un match, qui est déjà très performante au top de sa forme, qui va jouer le top 1, 2, 3. Donc, voilà, on sait, on connaît la valeur de notre adversaire. Pour autant, on est quand même très déçus. Hein. On est des compétiteurs, on est rentré sur le terrain à 0-0 pour gagner, pour faire un score, pour aller chercher un résultat.
Donc, malheureusement,
on peut pas se satisfaire de ça. On savait que la tâche serait ardue, serait difficile. Ça s'avérait sur le terrain et par le score.
Merci Patrick Darrigue. On espère vous retrouver très prochainement avec la gagne.
Je le souhaite. Merci beaucoup.
Au revoir. Mais côté montpellierienne, c'était grand sourire de toutes parts. Surtout que ce match était dédié à feu Loulou Nicolin, parti cet été vers de nouveaux cieux et qui, de là où il est, ne devait pas être mécontent de ses petites, comme il les appelait. Écoutons l'internationale française Sakina Karchaoui, qui, sur son côté de déboulé en déboulé, a complètement martyrisé les ailes albigeoises. Elle a répondu en toute modestie et plein de lucidité à notre micro. Sakina Karchaoui, bonjour. Donc pour cette première journée de Division 1, vous gagnez largement. C'est un bon départ, une analyse un peu à chaud.
Oui, on est un peu dans la lancée de la préparation. On a fait des bons matchs de préparation et on a voulu avoir un bon résultat aujourd'hui. Et j'espère que le championnat a bien commencé. J'espère qu'il continuera ainsi.
On a vu que vous arboriez la mention Loulou, puisque Louis Nicolin nous a quittés récemment. Ça a dû être une victoire que vous avez un peu dédiée à sa mémoire.
Oui, il nous a quittés malheureusement et c'était un peu un match en son honneur, donc on a voulu lui rendre hommage et je pense que la victoire c'est le plus bel hommage. Et
surtout avec cette manière.
Oui, surtout avec cette manière à 7-0, donc c'était pour lui et j'espère qu'on fera des autres matchs comme ça dans la saison.
Et une autre petite question qui est plus généraliste, on a vu qu'il y avait du changement en équipe de France, Corinne Diacre vient de remplacer Olivier Chouafny, votre sensation à cette nouvelle nomination?
C'est vrai que c'était choquant dans le sens où on ne pensait pas qu'il allait y avoir un changement, mais le président Noël Le Graët a voulu ça, donc on fait avec. Et
c'est un nouveau cycle.
Ouais, c'est un nouveau cycle si c'est le meilleur choix, on espère qu'il y ait du changement en équipe de France et enfin faire plaisir aux personnes qui nous suivent.
Ok, merci Sakina.
De rien, avec plaisir.
Au revoir. Espérons que dès le prochain match à Bordeaux, face à une équipe qui s'est ostensiblement renforcée, les filles de la SPTT puissent aller chercher leur premier point et lancer véritablement cette quatrième saison au plus haut niveau du foot hexagonal.
Le Mag Sport avec Loïc.
Maintenant, passons au motocross de Castelnau.
Le président Bosseboeuf et son équipe de fervents bénévoles nous accueillaient pour ce 49e Grand Prix sur le circuit de Pointe-Champagne ce week-end. L'événement, comme à son habitude, se déroule dans une ambiance des plus conviviales et a vu en tête affiche une épreuve des championnats d'Europe de quad-cross où le quadrursien Adrien Mangieu a donné du fil à retordre au jeune estonien Kevin Sarr, leader du championnat. Mais au forceps, Kevin Sarr a réussi à arracher la victoire pour consolider sa place de ténor du quad européen. Trois autres courses étaient au programme et dans la catégorie prestige, c'est Brice Mayen qui l'a remporté devant Robin Capel et le Laconais Hugo Roussali, au terme de deux manches ponctuées de belles bagarres qui devaient tenir le public en haleine. L'épreuve nationale a vu la victoire de Frédéric Vigny, a noté dans cette catégorie les 6e et 7e places des pilotes locaux Olivier Schneider et Kevin Catalo, qui sont aussi des bénévoles du club et l'info pour faire fonctionner cette belle épreuve. Et pour conclure, en 85 cm3, c'est Lenny Odina qui montera sur la première marche du podium. Mais notre regard s'est surtout porté sur une jeune pousse locale qui, en 125 National Open, à tout juste 17 ans et après à peine 6 mois de prépa, s'est lancé avec courage et vigueur dans ce Grand Prix à domicile sous le regard de ses proches et de sa famille. Nous écoutons les impressions à chaud d'Eddie Compan après ce premier galop d'essai très encourageant. Nous sommes avec Eddie Compan, jeune castelvicien de 17 ans qui participait pour la première fois à ce Grand Prix de motocross 125 à Castelnau à la maison. Vos impressions après ce premier Grand Prix, pas trop de stress de courir devant la famille et les amis?
Si, mais évidemment, c'est un stress de courir devant tout le monde. Un stress en plus quand on est sur la grille, notamment à toute la famille et les amis qui regardent. Notamment la première course, on veut toujours faire bien, mais il faut rouler prudemment et avec la tête.
Sur la seconde, vous étiez un peu plus relâché, vous avez pris un peu plus de plaisir, on dirait.
Oui, sur la seconde, ouais. Je me suis relâché, j'ai pris du plaisir. Et surtout, j'ai roulé propre et comme il fallait.
Il faut le rappeler, ça ne fait que 6 mois que vous pratiquez le motocross. Quels sont vos objectifs pour cette première saison?
Donc là c'est la fin de la saison, donc l'année prochaine une nouvelle saison en Challenge 125, donc on visera un top 10, pour ma première course j'ai fait 13 et 19, donc pour l'année prochaine on vise un top 10 et l'année d'après un podium, pourquoi pas un podium.
Vous voulez faire une progression on va dire sereine et lente pour pouvoir bien emmagasiner de l'expérience.
Voilà, procéder par étapes, ne pas brûler les étapes. Comme j'ai eu fait pour certaines choses. Donc prendre son temps, rouler avec les meilleurs que soi. Et voilà, c'est apprendre sur le tas, donc faut pas être précipité.
Comme on dit le jargon, qui va piano, Graciano.
Voilà, c'est ça.
Donc en vous souhaitant beaucoup de réussite pour votre saison future l'année prochaine et en espérant vous revoir au Grand Prix de Castelnau l'année prochaine. Merci Eddie.
Merci bien.
Allez, souhaitons toute la réussite qu'il mérite au jeune Eddie Compan pour la suite de sa carrière en motocross. Et quant à nous, il nous tarde le prochain motocross de Castelnau qui se déroulera au printemps 2018. Amis auditeurs, le rendez-vous est pris. Allez, sur ce, cette émission touche à sa fin. Merci bien sûr à Will pour la technique. Elle sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et sur le site du ministère. Et je vous dis à Décias et à vendredi 17h.